Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
L'Intégral Foot jusqu'à 21h sur RMC avec Fred Piquion et Coach Courbis. Évidemment, dans un instant, l'excellent Loïc Tanzi va nous rejoindre. Il a les toutes dernières infos autour de l'équipe de France. Il n'y a pas de mise en place, mais lui, il sait tout. Comptez sur lui. Nous sommes en veille de France-Espagne. La finale de la Ligue des Nations à suivre demain soir à 20h45 sur RMC. Évidemment, dans 15 minutes, l'Intégral Foot bascule en mode Ligue 1. On va analyser complètement le championnat après 9 journées disputées. Nous sommes au quart du championnat. Le niveau de jeu des équipes, les faits marquants, notamment l'arbitrage, le retour contrasté du public ou encore l'arrivée de Léo Messi. On aura un grand témoin avec nous, Laurent Batless, l'entraîneur de Troyes. C'est reparti pour l'Intégral Foot. Et on a un direct, évidemment on a un direct, c'est la finale de la Super League de rugby à 13 entre les Dragons catalans et Saint-Hélène à Old Trafford. Kevin Gasser, c'est la mi-temps.
Oui, c'est la mi-temps, Old Trafford, 6-4 pour les Anglais de Saint-Hélène, qui sont les doubles tenants du titre de la Super League, on le rappelle. Alors pour les Dragons catalans, il va falloir garder la même intensité pour espérer l'emporter, la première Super League de leur histoire. Mais si on peut signaler quelque chose, et c'est pas pour être pessimiste, la défense de Saint-Hélène, elle sait tenir, puisque l'an dernier, elle a remporté la Super League en encaissant que 4 points. Donc, il va falloir du courage et de l'intensité.
Kevin,
pour les Dragons.
Kevin, tu ne crois pas, je le sens.
Non, ça va, j'espère.
Mais bon, Roland, tu ne crois pas non plus.
Écoute, je regarde ça avec beaucoup de curiosité. Comme je te dis, ça m'a rajeuni. Donc, bon. J'ai vu que les coups de poing partent rapidement.
Ouais, c'est vrai que c'est plus fluide.
Et moi, je ne regarde pas du tout.
C'est ça. Oui, chacun son sport. Évidemment, toi, tu restes focalisé sur le foot. Loïc Tanzi aussi est focalisé aussi, sur le foot. C'est l'envoyé spécial auprès de l'équipe de France, envoyé spécial pour RMC Sport avec Jeannot Rességuier. Salut Loïc.
Salut à tous.
Salut Loïc. Salut Loïc.
Alors, c'est la plus-value Loïc Tanzi sur RMC.
Il paraît que Didier Deschamps, il a caché ce que toi.
Mais justement.
À toi, on te cache rien.
Et voilà. Pas de mise terrible. En place, mais ça sert à rien puisque Loïc a les infos, mon petit Loïc. Toi, tu sais déjà la compo qui sera alignée demain soir.
Pas encore, parce qu'il faut savoir que le sélectionneur Deschamps, il fait très rarement de mise en place quand il y a eu un match 48 heures avant.
Alors pourquoi, mon petit Loïc? T'as une explication?
Ouais, tout simplement parce que l'entraînement un peu physique normalement est fait 72 heures après un match. Les deux premiers jours, les 48 premières heures, c'est plus de la récupération. Hier, par exemple, les titulaires n'ont quasiment rien fait. Aujourd'hui, ça a été un peu de course, quelques taureaux, quelques frappes devant le but, un petit circuit de passe, mais vraiment très léger ce soir à San Siro. Et normalement, il en a parlé notamment en conférence de presse, le sélectionneur, s'il avait eu un jour de plus pour préparer ce match, demain, ça aurait pu être un entraînement un peu plus tactique où il aurait pu essayer de mettre des choses en place comme il l'a fait à Turin la veille du match face à la Belgique, parce qu'il a joué le jeudi et parce qu'il avait eu justement un jour de plus que l'Espagne notamment et l'Italie qui avaient joué la veille à San Siro, et donc il avait pu mettre en place son équipe et faire un entraînement un peu plus poussé que ce soir à San Siro. Alors, après, sur ce que ça veut dire sur la composition d'équipe, on l'attendra demain, mais ça s'est bien passé avec une défense à 3 face à la Belgique notamment en deuxième période.
Tu penses que le schéma restera
pas de
même,
de changer.
Ouais, tu penses que le schéma...
Il y a un tout petit doute, c'est que à chaque fois que le sélectionneur a utilisé une défense à 3, c'est parce qu'en face, l'adversaire jouait avec une défense à 3.
La Finlande et la Belgique.
Je vois pas
la
Finlande, rapport, mais...
la Suisse à l'Euro.
Ah oui,
mais oui, mais je te c'est un constat en fait.
Il s'est adapté à l'adversaire.
La Belgique, la Finlande, la Suisse à l'Euro.
Adapté à l'adversaire, si tu joues.
L'Albanie notamment.
Si tu regardes la construction de ta défense, c'est par rapport à l'attaque de l'adversaire, pas par rapport à la défense de l'adversaire.
En fait. Oui, mais en tout cas, ce sera un vrai enseignement demain soir au moment du
problème est au milieu.
Voilà, exactement.
Le problème est au milieu, en fait, c'est que
si tu l'installes vraiment, Loïc, en fait, voilà, si tu l'installes vraiment ce système ou si tu t'adaptes. Voilà.
Les Espagnols vont jouer en 4-4 de losange, normalement. Mmh. En fait, le risque, c'est que si tu joues à 3 derrière, Pogba et Tchouaméni, qui devraient commencer au milieu de terrain, vont un peu être seuls à ce niveau-là face au milieu espagnol. Et donc, il va falloir que les 3 de devant défendent vraiment, si jamais il reste à 3 défenseurs.
Loïc, on démarre avec la même équipe, c'est mon pronostic. On démarre avec la même équipe, avec Tchouaméni à la place de Rabiot. Ouais. Et je ne sais pas si Rabiot n'avait pas eu, si c'était pas cette même équipe-là. Ensuite.
Exactement. A priori, Tchouaméni jouait quoi qu'il arrive. Même si Rabiot avait été dans le groupe, il aurait quand même débuté la rencontre.
C'est ce que je pensais. J'avais pas cette précision.
Parce qu'il fait une bonne rentrée contre la Belgique.
Ensuite, en ce qui concerne l'adaptation de cette équipe-là, mais il suffit que si tu mets la même équipe que nous avons eue contre les Belges, eh bien, il suffit que Koundé coulisse derrière Pavard, et Pavard qui monte d'un cran, mais c'est fini la défense à 3. Tu as une défense à 4 avec Hernandez arrière gauche et un des Hernandez arrière central, ouais, coach, côté gauche.
Il faut arrêter de se dire ouais, défense à 3, défense à 4, défense à 5. On sait très bien qu'à chaque fois on parle d'animation. Donc forcément, oui, c'est en fonction de l'endroit où est le ballon que tu dis ouais, est-ce que c'est une défense
évidemment
à 3,
je te
rejoins.
Moi, je fais pas le professeur, mais j'essaie de vous faire comprendre que cette animation, évidemment qu'elle est indispensable. On précise chaque fois, c'est l'animation qui est importante. Oui, moi je te parle d'un mécanisme, d'une dizaine de mètres d'un joueur qui se déplace, et c'est Koundé qui se déplace vers la droite, et Pavard qui monte faire le Sissoko ou le Matuidi quand ça se passait côté gauche et tout. Nous serions à ce moment-là dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-4-4 avec Mbappé.
4-4-4. Beaucoup.
Non, 4-4-2. Avec donc deux attaquants qui seraient Griezmann et Benzema, avec Griezmann en retrait de Benzema et Mbappé côté gauche.
Oui. Voilà, alors, Benoît, si je peux rajouter un tout petit truc.
Vas-y, mon petit.
En fait, le coach aime cette défense à 3, pas parce que c'est une défense à 3, parce que c'est le seul système aujourd'hui qui lui permet d'avoir Griezmann dans cette
position. Merci Loïc, c'est ce qu'on a dit en première heure. Bravo Loïc.
Et Benzema devant. C'est pour ça qu'il met en place cette défense-là.
C'est pour recentrer Griezmann.
Son trio offensif en triangle comme ça.
Ils sont là, nos envoyés spéciaux. Bravo Loïc.
Et surtout parce que intelligemment, après plusieurs années, il s'est aperçu que chaque fois qu'il joue en 4-3-3, 9 fois sur 10, ça ne marche pas.
Exactement. Petite question à Fred Piquion. J'ai eu la discussion avec Coach Courbis en préparant cette émission. Roland me dit, il faut arrêter avec toutes ces histoires de mise en place tactique, etc. On parle de joueurs de très haut niveau. Il suffit de 10 minutes pour expliquer à un joueur, je veux exactement que tu fasses ci, que tu fasses ça, que ce soit une défense à 3, à 4, s'il y a 3 ou 4 milieux de terrain. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Est-ce que finalement
on en fait trop autour des mises en place tactiques?
Je trouve que même 10 minutes c'est trop long.
Je trouve que même 10 minutes c'est trop long.
Mais j'ai le même avis, bien évidemment, aujourd'hui.
À ce niveau-là, on peut s'adapter très rapidement.
Quoi. Mais quand même, que tu joues en 3-4-3, 4-4-2, 4-2-3-1, le joueur professionnel aujourd'hui, il doit s'adapter à différents systèmes.
D'accord.
Mais en fait, ce qu'on se dit, c'est que comme il y a des matchs où il y a un système qui va pas, ou alors on n'arrive pas à se focaliser sur un seul système, on s'est dit bon non, celui-là il marche pas, alors je vais changer. Ben non. Ou alors je suis obligé de faire une mise en place tactique pendant une heure et demie parce que le joueur il est pas capable de se métamorphoser ou de se concentrer sur tel ou tel système. Mais en 5 minutes, un joueur de très haut niveau est capable de se mettre, de pouvoir se mettre dans n'importe quel système.
Même sur l'animation, justement, tu parlais d'animation, même les 3 devant.
Mais même l'animation, les 3 devant, ils sont assez intelligents pour savoir s'il y en a qui va à gauche, ils vont devant.
Les 3 devant, Loïc, ce qui est très important, puisqu'on est en train de traverser plusieurs modes. Il y a la mode des 3 arrières centraux, il y a la mode du pressing, il y a la mode du contre-pressing et tout. Ce qu'il faut quand même expliquer aux joueurs. Et là, j'espère que un jour, il y aura quelqu'un, quand il discute avec un joueur de l'équipe de France, qui demandera à un joueur, pour ce qui est du pressing, qui le déclenche, comment vous le déclenchez, quand vous le déclenchez, pourquoi vous le déclenchez, ça on le sait, c'est pour perturber l'adversaire. Je ne l'ai jamais entendu. Et quand j'entends qu'à la mi-temps on s'est dit maintenant il faut y aller.
J'ai ta réponse si tu veux, coach.
Ça me ferait progresser moi-même. Ah.
Là, pour le coup, ça a été, alors je sais pas si c'est une décision des joueurs ou si ça a été forcé par le scénario du match. Le coach, en tout cas le sélectionneur Deschamps, il avait demandé à ses joueurs et de commencer par les attaquants. C'était aux attaquants qui devaient déclencher le pressing.
Dans les attaquants, tu comptes Griezmann ou c'est seulement les deux? Benzema, Mbappé.
Ah non, je compte Griezmann. Parce que il jouait à 3 centraux les Belges. Et en fait, les 3 devaient venir presser dès le 6 mètres. Et en fait, ça n'a pas été fait en première période.
D'accord.
Il avait demandé pourtant le sélectionneur dès le début du match. Il l'a répété à la mi-temps et dans le vestiaire. Essayez de faire ce que je vous ai demandé. Ce pressing haut a commencé par Benzema, Mbappé et Griezmann.
Okay. C'est pour ça qu'il a dû rajouter, et je ne change pas encore un seul joueur. Le seul truc que je veux, c'est voir c'est ce pressing tout. Et voir ce 3 contre 3, alors, qui sera un 3 contre 4, puisqu'ils vont se tourner, ils vont faire une passe au gardien.
20h10, vous écoutez l'Intégral Foot. On est avec Coach Courbis, on est avec Fred Piquion et Loïc Tanzi en direct de Milan, en veille de finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne. Parlons effectivement du joueur qui devrait démarrer demain au poste de milieu de terrain. Si le schéma reste le même, mais quoi qu'il arrive, il pourrait connaître une nouvelle cape en équipe de France. C'est Aurélien Tchouaméni. Votre avis justement sur ce joueur qui a fait une bonne rentrée une nouvelle fois contre la Belgique. Il a remplacé Adrien Rabiot qui était un peu en difficulté.
Au-delà de ça,
voilà, c'est quoi logique pour toi, Fred?
Au-delà de ça, Tchouaméni, c'est un joueur qui a fait une énorme saison la saison dernière.
Et qui confirme cette saison avec Monaco.
Et qui est en train de confirmer avec Monaco. Pour moi, c'est le remplaçant logique de Rabiot par rapport à cette.
Est-ce que c'est la meilleure alternative au duo Kanté-Pogba, à ton avis?
Et là, la question, elle se pose, pour moi, elle se pose pas aujourd'hui. Tchouaméni est meilleur que Rabiot dans tous les sens du terme.
Donc si Kanté ou Pogba est absent, pour toi, c'est Tchouaméni qui doit rentrer.
Ben oui.
Comment tu as dit?
Je te dis, est-ce que c'est la meilleure alternative au duo Kanté-Pogba, qui est quand même le duo de référence pour Didier Deschamps?
Ah ben oui, mais si par exemple, tu as la chance, parce que j'appelle ça une chance, d'avoir trois joueurs qui se partagent deux postes, ce qui n'est pas non plus interdit quand, par exemple, tu mènes 2-0 à 20 minutes de la fin, de terminer avec tous les trois en même temps sur le terrain.
Mais comment tu veux les faire jouer les trois alors?
Ah ben, tu les
fais rentrer. Ben, on t'a dit tout à l'heure, en deux minutes, les mecs, ils peuvent savoir comment jouer.
Oui, d'accord. Donc, mais
il va rentrer, t'inquiète pas, il va trouver sa place sur le terrain.
Mettre N'Golo Kanté en sentinelle, c'est du gâchis. Voilà. Donc, tu mets qui en sentinelle? Tu mets les trois.
Mais tu mets même pas celui que tu as mis. Tu peux mettre Tchouaméni et Kanté et Pogba devant lui. Tu peux jouer en 4-5-1. Donc, mais ce que je pense.
Mais vous n'allez pas me crier dessus toute la soirée, quoi.
Tchouaméni, hein?
Vous n'allez pas me crier dessus toute la soirée, quand même.
Non, mais ce que je pense de ce Tchouaméni, c'est que premièrement, je le trouve très fort. Deuxièmement, chose qui est importante, je l'écoute dans les interviews, je le lis. Je le trouve aussi sympa que bon footballistiquement.
Grosse personnalité, hein.
Et je trouve que ce mec-là de 21 ans, ben, je me l'imagine plutôt avec 24, 25 ans que 21 ans. Je le trouve très, très important. Et je dirais même très, très important pour notre équipe de France.
Exactement.
Je peux vous dire juste une chose sur demain. Alors, il a 21 ans. Je sais pas s'il va faire un bon ou un mauvais match, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas la pression d'une finale disputée avec l'équipe de France devant 37 000 personnes à San Siro pour ses toutes premières sélections. Ça, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, Tchouaméni, pardon. Un peu comme la nouvelle génération de joueurs qui arrivent, ouais. Où vraiment, on les met dans n'importe quelle condition, n'importe quel match, n'importe quel club, où la pression, on a l'impression qu'ils connaissent pas ça et qu'ils viennent juste jouer au football et ça passe sur eux. Et il est un peu comme ça aussi, et c'est une très grosse personnalité qui est tout doucement en train de s'affirmer en équipe de France, parce qu'il sait aussi arriver, il est arrivé sur la pointe des pieds, il a observé, c'est quelqu'un qui observe beaucoup ce qui se passe autour de lui avant de devenir la grosse personnalité qu'il est devenu, notamment à l'AS Monaco. Et pour l'anecdote, c'est un joueur qui, au tout début de sa carrière à l'AS Monaco, avait demandé conseil à Patrick Vieira, pardon.
Avec Roland Hochelaga, c'est pas la même chose.
Patrick Vieira, qui joue à son poste en équipe de France. Oui, c'est clair. Et qui est un joueur à qui il a demandé pas mal de conseils quand il était entraîneur de l'OGC Nice. Il le voyait, il l'a appelé pour essayer de lui demander notamment sur le placement, sur des choses à faire. C'est aussi la preuve de cette volonté d'essayer de progresser de Tchouaméni.
C'est ce qui s'appelle l'humilité, tout simplement.
Exactement. Et d'ailleurs, je pense que Patrick Vieira a pris ce qu'il a démarré.
Et l'intelligence.
Exactement. Merci Loïc Tanzi. Demain, donc, 5e sélection a priori pour Aurélien
Tchouaméni
à confirmer. Vous avez évidemment le réflexe d'aller sur le site d'RMCSport.fr pour les toutes dernières infos. Dernier mot avec toi, Loïc. Juste pour dire que ça y est, toutes les places ont été vendues. Hein. 37 000 personnes, demain 4 000 Français.
Oui, parce qu'il n'y a que 50% de la jauge autorisée en Italie pour l'instant. Il y avait 15 000 personnes seulement à Turin face à la Belgique. Là, 37 000, ce sera déjà un peu plus garni.
Ok, merci Loïc. À demain pour ce match. Plaisir. Donc, finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne. Coup d'envoi 20h45 sur RMC. Le direct, c'est la finale de la Super Ligue de rugby à 13 entre les Dragons catalans et Saint-Hélène's à Old Trafford. Kevin Gasset.
Oui, c'est la 46e minute au Théâtre des Rêves et on vient juste d'assister peut-être à un chaos. Donc, c'est reparti sur les mêmes bases, la même intensité. Oui, voilà, c'est le joueur rouge des Saint-Hélène's qui vient percuter avec le bras au niveau de la gorge du joueur catalan.
Il y a un arbitrage vidéo d'ailleurs.
Mais celle-là, c'est rouge, non ?
C'est, l'arbitre a demandé la vidéo pour revisionner l'action, mais on a bien le coude qui se plaque au niveau de la gorge. Mmh. En tout cas, le joueur catalan était pas loin de la zone d'embut, pas loin de mettre l'essai. Il l'a bien stoppé. On est toujours à 6-4 pour les Anglais de Sainte-Hélène face au Dragon catalan. C'est la 46e minute de jeu. Match arrêté.
En plus que c'est dangereux ce qu'il fait, il empêche l'essai aussi.
Oui, donc on verra.
Une pierre de coup.
Ce que je vous propose, dans une minute, la sanction qui tombe donc dans cette finale, et puis surtout, on démarre notre bilan de la Ligue 1 après le premier quart du championnat. Le jeu, l'arbitrage, l'effet marquant, analyse de Fred Piquion, de coach Courbis et de notre grand témoin, l'entraîneur croyen, Laurent Batles. Tiens, info qui est donnée, donc il n'y a pas l'essai qui est accordé. En revanche, un carton, Kevin Gasser, pour le joueur de Saint-Hélène. Hein.
Carton jaune pour le joueur avec son coup de jaune, la manchette. Et il proteste, il n'est pas d'accord.
Et qu'est-ce qu'il voulait, un carton blanc?
Carton jaune en tout cas. Allez, on revient dans un instant pour la suite de cette finale et pour le bilan de la Ligue 1.
RMC, Intégral Foot Ligue 1.
Benoît Boutron.
Jusqu'à 21h avec coach Courbis et Fred Piquion. On va faire le bilan de notre Ligue 1 ce soir sur RMC. On va prendre le temps d'analyser le premier quart du championnat, le jeu, l'arbitrage, les problèmes engendrés notamment par le retour du public. Pour évoquer tous ces sujets, on va accueillir dans un instant Laurent Batles. Mais un point sur notre direct, la finale de la Super League de rugby à 13 entre les Dragons catalans et Sainte-Hélène, Kevin Gasser.
Oui, 48e minute, 6-4 pour les Anglais toujours. Et les Anglais qui évoluent à 12 après la vilaine faute qu'on a vue tout à l'heure, qu'on a entendu surtout. Même s'il n'y avait pas le bruit de ce bras plaqué sur un avant d'un joueur catalan. 6-4 toujours, la balle est au centre, ouais. Ça se bat, c'est sur la même intensité. À chaque ballon, les joueurs sont au bord de la friction. Et ouais. les Catalans qui récupèrent la balle dans leur embut, dans leur zone des 10 mètres.
Attention, toujours. Analyse Super League de coach Courbis.
Non, mais je pense que c'est tout à fait anormal, dans le sens que le mec, en plus de la faute, Il empêche l'essai. Faut pas déconner.
Exactement. Pour l'instant, on en reste donc à 6-4 pour Sainte-Hélène. C'est après 48 minutes de jeu. 20h18 sur RMC. Pour évoquer donc le bilan du premier quart du championnat de Ligue 1, on accueille Laurent Batles, l'entraîneur troyen, qui est en direct avec nous. Bonsoir, coach.
Bonsoir à tous.
Merci d'être là. Vous avez accepté, Laurent, de passer 40
Salut
minutes avec
Laurent.
Nous. C'est plutôt sympa quand même. Pour une fois que vous avez un samedi soir, vous êtes quand même sur RMC.
C'est la première question que j'ai posée à Benoît quand même. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Laurent? 40 minutes un samedi soir.
Ouais, mais déjà, ça me dérange pas. Et puis, deuxièmement, je suis dans la voiture, je rentre chez moi, là. Donc,
donc ça risque de couper, quoi, en fait, c'est ça?
Non, j'espère pas. Parce que je rentre, j'ai regardé le match de la réserve.
Ouais.
Et là, je suis sur la route pour rentrer à Saint-Etienne.
On a vu un très bon, Adil Rami, à ce qui paraît.
Ben, il a fait un match de reprise depuis deux ou trois mois. C'est un match qui compte pour nous, qui compte pour lui aussi. Donc maintenant, on va essayer de bien récupérer et voir si on peut maintenant le faire rentrer dans le groupe le plus rapidement possible.
Ouais, je rappelle qu'effectivement, vous avez beaucoup de joueurs sous contrat, qu'il y avait 9 joueurs professionnels pour ce match de la réserve. Donc c'était important pour vous d'y être et d'y assister. Laurent, on rappelle que Troyes est champion de France de Ligue 2, hein, c'était la saison dernière. L'Estac qui est 17e de Ligue 1, donc après 9 journées, 2 points d'avance sur le 19e Brest. Une victoire, 3 nuls et 5 défaites. Est-ce qu'en début de saison, Laurent Batles, vous attendiez un début de championnat si compliqué pour vous?
En toute honnêteté, oui, parce qu'avec un gros changement au niveau de l'effectif, c'était pas non plus évident de pouvoir mettre en place ce qu'on avait mis depuis 2 ans en place. Je pense qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, il nous manque 2-3 points, je pense pas plus, qui nous permettraient d'être peut-être un petit peu mieux classés. Mais dans le contenu des matchs, à part peut-être la deuxième mi-temps contre Angers, il y a des choses très intéressantes.
Quand tu dis il nous manque, c'est que tu penses, et on est d'accord avec toi, que vous auriez pas pu, vous auriez dû les avoir.
Ah oui.
Oui, voilà, c'est ça. On aurait dû les avoir par un peu plus de maturité au niveau de notre jeu, un peu plus de confiance, notamment dans certaines fins de match où On a été l'une des équipes qui a ouvert le score presque à chaque fois.
Ah bah j'ai les stats, Laurent Batless, si vous voulez. C'est le grand défaut de votre équipe. 12 points perdus après avoir marqué le premier but dans un match de Ligue 1. Oh, oui. Seul Burnley fait pire en Europe dans les 5 grands championnats.
Tu t'imagines, Laurent, la prochaine fois qu'ils ouvrent le score, ils te les engueulent. Il a dû le noter.
Du coup, Laurent Batless, vous préférez être mené au score?
Non, mais justement, c'est ce que, en fait, c'est ce que je voulais pas à Nantes, et malheureusement, on a pris 2 buts, mais on n'a pas su revenir au score. Donc, je vais pas leur demander de pas marquer, mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir aussi avoir de la maturité dans l'équipe, et notamment avoir un peu plus de contenu, notamment quand on gagne, où on doit peut-être un petit peu plus garder le ballon et un petit peu plus jouer, que de jouer beaucoup plus en transition, parce qu'on a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui jouent dans la transition avec de la vitesse et peut-être moins un peu dans le contenu.
Alors justement, Laurent, il y a eu beaucoup de changements à l'Estac cet été. 14 recrues sont arrivées, il y a 12 nationalités différentes dans l'effectif. Est-ce que avec toutes ces infos, c'est normal de démarrer doucement le temps que tout le monde assimile un petit peu les principes de jeu?
C'est pas ce que l'on souhaite en tant qu'entraîneur. Je crois que Roland, et je l'ai eu comme coach. Et
oui, vous annoncez à Toulouse, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il sait de quoi je parle. C'est pas l'idéal. Maintenant, après, il faut faire avec, il faut travailler et il faut essayer de faire comprendre un petit peu à tout le monde ce que l'on veut. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes chez chaque joueur. Maintenant, il est vrai que la cohésion, en recrutant aussi 4 joueurs, notamment qui arrivent le 31 au soir,
oui.
Il nous faut du temps après pour pouvoir mettre des choses en place. Et on a des joueurs aussi qui ont été blessés gravement, qui étaient là l'année dernière. Donc en fait, on a un début de saison, malgré tout, je veux pas me trouver d'excuses, mais on n'a pas que des bonnes choses non plus au niveau des blessures.
Et en ce qui concerne la saison dernière par rapport à cette année, bon, évidemment, on vient de dire qu'il y a ce changement avec plusieurs joueurs, c'est énorme comme changement. Mais en ce qui concerne non pas tes compositions d'équipe, en ce qui concerne ce que tu as pu faire la saison dernière, parce que j'ai suivi quand même pas mal de choses en Ligue 2.
Adepte de la défense à 3.
Ouais, mais la défense à 3, c'est là que j'insiste. C'est pas uniquement la défense à 3 qu'il fallait s'occuper la saison dernière de l'organisation de 3. C'était le positionnement des 7 autres joueurs de
4 joueurs techniques au milieu de terrain.
Qui était quand même pas évident. Et pourtant, ça a marché. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Je te fais pas aller, un compliment stupide et gratuit. Il faut évidemment qu'il y ait plusieurs responsables dans une montée, mais si on met une liste, responsable numéro 1, c'est toi et ton organisation et l'utilisation que tu as fait de tes joueurs la saison dernière. Donc là, cette année, et j'en arrive à ma question, est-ce que tu as quand même vu que les adversaires sont supérieurs et que vous êtes un promu, c'est-à-dire avec comme objectif de se sauver et même de se sauver en passant par les barrages, s'il faut passer par les barrages, mais il faut se sauver parce que la saison d'après, il y a 4 descentes. Hein. Donc, est-ce que cette année, tu es quand même un peu plus prudent pour être un peu plus solide dans ton organisation et dans ce fameux équilibre-là que tous les entraîneurs et sélectionneurs cherchent?
Oui, tu as tout à fait raison. En fait, l'année dernière, on était parti dans un système qui était avec 3 défenseurs centraux, et notamment, des fois, c'était même 2 latéraux et qu'un seul défenseur central. Ça dépendait par moment, par rapport aussi à certaines blessures.
Ce que fait un peu Monaco quand ils mettent Sidibé arrière centre côté droit.
C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Et après, on avait décidé de partir avec un 4-4-2, enfin un losange au milieu. Et j'avais surtout des pistons très offensifs. C'était des pistons, c'était des ailiers que j'avais mis. J'avais pas mis des défenseurs, mis des pistons à valeur défensive. On avait mis des pistons qui étaient des ailiers. Qui
c'est pour ça que je te coupe encore une fois. Ce que j'essaye de faire comprendre pour qu'on arrive à progresser, parce que je me suis cassé la tête pendant 30 ans, mais c'est pas pour rien si je peux en faire profiter à des plus jeunes que moi. Quand on dit il joue avec 3 arrières centraux, oui, il joue avec 3 arrières centraux. Mais si par exemple tes 2 pistons, c'est 2 ailiers, si par exemple c'est Coman d'un côté et Mbappé de l'autre, c'est pas pareil que si c'est Pavard et Hernandez.
Ah bah, hein. C'est sûr.
C'est exactement ce que j'avais pris comme option. J'avais pris une option de faire mal à l'adversaire, d'aller les chercher très haut et de mettre en fait un attaquant pour faire mal à l'adversaire et faire mal au latéral adverse. Ouais.
Bah,
et cette année, le problème, c'est que bon, tu te rends bien compte, et t'as tout à fait raison, que dans l'aspect défensif, on était peut-être pas, malgré tout de temps en temps mis en difficulté l'année dernière. Mais il n'y avait pas la qualité, pas pour dénigrer la Ligue 2, mais il n'y avait pas la qualité de la Ligue 1. Et donc cette année, on est parti avec des joueurs un petit peu plus défensifs, même si on a des, même si on a à droite un joueur qui est Caboré, Issa Caboré, qui a la qualité de pouvoir à la fois défendre, à la fois attaquer.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est ce que je recherche en positionnant aussi. Et ce qui a été important pour moi, dans ce que tu dis, Roland, c'est très intéressant, c'est que aussi j'avais un joueur de 34 ans devant. Et je m'étais dit que je voulais pas lui faire faire des appels de partout, et je voulais juste qu'il se concentre d'être dans la surface et d'être entre les deux centraux.
Mais c'est très intelligent de ta part.
On avait pour optique de laisser Johan Tousgard que dans la surface pour éviter qu'il aille à droite, à gauche et faire des appels de partout, parce que ça allait le fatiguer, alors que c'était l'un des meilleurs buteurs du championnat.
Laurent Batless, l'entraîneur de Troyes, est en direct avec nous. On parle de la situation de l'Estac. Dans un instant, on fera le bilan de la Ligue 1 après le premier quart du championnat. 9 journées disputées sur 38. Dernière question pour vous sur votre actualité, précisément à vous, entraîneur de l'Estac. C'est vrai que vous nous faites un petit peu penser au Lorient de Christophe Pélissier la saison dernière. C'est vrai que lui aussi était arrivé en tant que champion de Ligue 2. Il avait des idées sur le jeu. Il s'est dit, je vais essayer de me maintenir en jouant. Et puis, il avait changé son fusil d'épaule au mois de décembre, et depuis, il y a une défense à 5 qui a été installée avec des joueurs plus défensifs, et c'est devenu une équipe très régulière, l'une des meilleures en 2021. Est-ce que ça vous donne des idées, ou est-ce que vous, au contraire, vous voulez aller au bout de vos idées et continuer à jouer tout au long de la saison de Ligue 1?
Non, mais alors c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, puisque justement j'ai analysé le championnat de Lorient l'année dernière. Et pour autant, c'est pas parce qu'on joue dans une défense à 3, à 5 ou comme vous voulez. Vous venez d'en parler à la radio, je viens d'écouter depuis que je roule. Aujourd'hui, c'est l'animation qu'on y met. Je pense que Lorient était comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont écrasé plus ou moins la Ligue 2 l'année d'avant quand ils sont montés, avec énormément de possessions. Et l'année d'après, il est resté dans le même schéma. Et moi, en fait, cette année, je m'étais dit, si je reste dans le même schéma, notamment avoir 65 ou 70% de possession, déjà c'est pas faisable, c'est pas réalisable. Et deuxièmement, je m'étais dit, on va essayer d'être un peu plus pragmatique et de regarder ce qu'a fait Lorient. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Lorient, ils ont acheté un joueur à 8 à 9 millions d'euros devant, et qui leur a mis 15 buts deuxième partie de saison.
Ouais.
Donc c'est toujours pareil. Je pense que Christophe s'est très très bien adapté, et il fallait qu'il le fasse. Après aussi, c'est la valeur individuelle et le talent des joueurs qui fait aussi la différence.
Bah, il suffit d'acheter un Kylian Mbappé et puis ce sera réglé.
Non, mais après, ça fait partie aussi du travail que l'on a en tant qu'entraîneur, de faire progresser son équipe et de faire progresser ses joueurs. C'est pas un souci, mais malgré tout, quand vous avez un joueur comme a pris Lorient à l'intersaison, bah, c'est quand même plus facile de gagner des matchs.
Oui, et puis en plus de ça, si on ne parle aussi que des trois arrières centraux, parce qu'il y a une organisation à trois arrières centraux, il faut regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va faire dans les couloirs. On vient de faire une comparaison avec Mbappé et Coman, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si par exemple tu as la chance d'avoir les deux attaquants de Lorient qui vont à 200 à l'heure,
Lorienté et Mofi,
la saison dernière ils avaient même Ouissa, ils étaient trois pour deux postes. Tu peux très bien consolider ton milieu et être meilleur évidemment dans la récupération quand tu sais que tu as ces deux joueurs qui autant s'entendent les deux comme un duo, avec une certaine complicité, ils s'entendent les yeux fermés, et tu sais très bien qu'à tout moment, tu peux marquer un but. Mais tu t'imagines, pour les 8 coéquipiers, je parle des joueurs de champ, je parle pas du gardien, on est au courant qu'à tout moment, on a une équipe avec un duo qui peut marquer un but contre n'importe qui, n'importe quand.
Mais
tu te transformes en Tarzan.
Ouais, t'as donné une confiance.
Exactement. Laurent Batless, on profite de votre présence. On a encore une demi-heure à passer avec vous. On va continuer le bilan de la Ligue 1. On est avec Fred Picken et Coach Courbis. On revient dans un instant. On va commencer justement le bilan global avec le jeu pratiqué cette saison en Ligue 1 qui est passionnant, et on se régale évidemment tous les week-ends sur RMC. On va parler de l'arbitrage également. L'arbitrage qui est fortement décrié, ou encore du retour controversé du public dans les stades avec les nombreux débordements qu'il y a eu depuis le début de saison. On revient dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Avec Coach Courbis et Fred Piquionne, jusqu'à 21h sur RMC, un invité exceptionnel, Laurent Batless, l'entraîneur troyen. Il passe 40 minutes avec nous ce soir pour justement évoquer le premier quart du championnat. On a disputé 9 journées sur 38. On va faire le bilan sur le jeu, sur l'arbitrage notamment dans un instant. Un petit tour par notre direct puisque les nouvelles sont bonnes pour les Dragons catalans en finale de Super League de rugby à 13 à Old Trafford contre St Helens. Kevin Gasser.
Oui, à la pause c'était 4-10 pour les Anglais et maintenant c'est 10-6 pour les Catalans qui, grâce à un essai à la 50e marqué par Mike McMakin, le deuxième ligne anglais, ont réussi à faire plus 4, transformé par le vétéran australien James Maloney, plus 2, donc 10-6. L'internel australien d'ailleurs, James Maloney, qui raccrochera ses crampons, donc ce serait pour lui le point d'orgue de sa carrière. Mais rien n'est fait, on le rappelle, parce que c'est le rêve des Dragons catalans de s'imposer. Mais on est face au double champion en titre.
Exactement.
Il reste moins de 20 minutes à jouer, 10-6 pour les Dragons catalans, encore un tout petit peu à tenir.
C'est quand même, quand on regarde ce rugby à 13, j'ai pas une grande compétence, mais bon, j'essaye un petit peu de regarder ce qui se passe à 15 ou ce qui se passe pas, et à ce qui se passe à 13. Mais il n'y a pas d'arrêt.
Ah, physiquement, c'est infernal. Ça s'arrête jamais.
Quand tu vois le nombre de fois qu'en 15, tu récupères entre la mêlée, entre l'arbitre qui va regarder la vidéo et tout ça, mais là, ils font pas le même sport.
Et ce qui serait intéressant, c'est de voir les kilomètres parcourus.
Ah, j'aimerais le savoir. Là.
Exactement.
Je suis fatigué rien que de les regarder. Là.
Exactement. C'est vrai. En tout cas, pour l'instant, les nouvelles sont bonnes. Ça pourrait être historique pour les Dragons catalans. 20h35 sur RMC. Laurent Batles, toujours avec nous. Laurent, vous êtes bien là? Tout va bien? Ah, est-ce qu'on attend Laurent? Oui, il est là. Laurent, tout va bien?
Oui, j'entends.
Très bien.
On est en train de parler du rugby à 13.
Exactement.
Je suis, j'écoute.
Bon, avant de passer justement à notre bilan de la Ligue 1, il y a Victor, supporter troyen, qui nous a appelé et voulait vous passer un message. Salut Victor.
Bonsoir.
Tu voulais parler à ton coach, mais t'en as l'occasion sur RMC, Victor.
Bonsoir, coach.
Bonsoir.
Salut Victor.
Salut à tous.
Un coach, c'est pas coach Courbis, c'est coach Batles, désolé.
Oui, coach Batles, mais coach Courbis aussi, bonsoir.
Ah, c'est un réflexe, tu m'appelles coach, je réponds à la place de Laurent. Hein.
Vas-y Victor.
Non, mais c'est vrai que j'ai écouté ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, et la question qui m'est venue, c'est pourquoi finalement les joueurs qui sont arrivés en prêt de City sont arrivés si tard. Je pense à Palmer Brown, à Palmer Brown et à Sandler. Par rapport à Caboré qui est arrivé plus tôt et qui est beaucoup plus intégré à l'équipe aujourd'hui.
Alors, Victor, si tu me permets, je vais juste recontextualiser pour ceux qui ne sont pas au courant, puisque les Stacks fait partie du City Group désormais, hein, donc voilà, ce qui possède les actionnaires qui possèdent Manchester City. Donc effectivement, il y a eu des joueurs prêtés par le City Group, donc par Manchester City, à les Stacks, coach Batles.
Oui, c'est ça. Caboré est arrivé comme le disait notre auditeur
Victor est arrivé
très tôt et il a fait toute la préparation avec nous parce que il était à Malines l'année dernière et donc il est venu chez nous directement et c'est vrai que lui s'est vite intégré et a vite été intégré au groupe, mais même au niveau de son jeu ça s'est très bien passé. Au niveau des trois autres, bien sûr on aurait aimé qu'ils arrivent avant. Mais vous avez aussi des choix des joueurs et vous avez aussi des choix d'agents. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les joueurs, peut-être, je sais qu'ils avaient d'autres contacts avec d'autres clubs. Et à un certain moment, on ne pouvait peut-être pas les faire venir avant. Et puis, il y en avait qui avaient été prêtés dans des clubs l'année dernière. Il y en avait qui avaient repris avec Manchester City. Et donc, à un certain moment, on est aussi tributaire de ça. On ne peut pas tout le temps nous décider. De l'arrivée, j'aurais bien aimé bien sûr qu'ils arrivent au tout début comme tous les joueurs.
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est vous le seul décideur des profils ou si c'est le City Group qui vous entre guillemets oriente et qui vous conseille ces joueurs-là. Comment ça se passe lorsqu'un joueur du City Group est prêté à l'Estac?
Non, en toute honnêteté, moi j'ai donné des profils en fait à mon directeur sportif, tout simplement en faisant un PowerPoint avec tout ce que je voulais, tout le recrutement que je voulais et en mettant chaque qualité que je voulais sur les postes, notamment en défense centrale, notamment devant, notamment au milieu. Voilà, et après, en fonction de ça, vous connaissez aussi l'ampleur qu'a le groupe City et ils ont énormément de contrats, énormément de joueurs. Mmh. Et donc après, de ce fait-là, ils nous proposent des joueurs et après, on prend ou on prend pas.
Au niveau blessure actuellement...
Roland, merci. C'est juste Victor qui est venu au 32-16 et on te dit à bientôt, Victor, supporter de l'Estac. Merci Victor d'être venu.
Salut Victor, excuse-moi de t'avoir coupé.
Vas-y Roland, vas-y.
Non, je disais à Laurent, au niveau de l'infirmerie, là, il y a eu un pépin dernièrement, non?
Oui, c'est avec Karim Azamoun qui voilà. s'est fait les croisés.
Ah, oui.
Et là, on vient de. Enfin, on a Tardieu qui a un petit problème au niveau du talon et ah. et c'est quand même une grosse. Enfin, c'est pas une perte tout au long de la saison pour nous, mais que Flo Tardieu aujourd'hui rate même que 2-3 matchs.
Eh, c'est un beau joueur de base.
Effectif, bah, oui. ouais, pour notre effectif, c'est quand même quelque chose d'énorme parce qu'à la fois c'est un cadre et à la fois c'est un joueur qui fait jouer notre équipe.
Tardieu peut être aussi important pour toi que Berthomier pour Clermont.
Ben, c'est exactement ça, voire même Gatien, voire même tous ces joueurs-là qui sont,
ouais, il est plus
sont
reculé,
des
ouais.
qui nous font jouer l'équipe.
Exactement. Quoi, tout à fait, ouais. Alors, Laurent Batless, on vous a demandé de venir avec nous pour analyser le jeu de la Ligue 1 avec Fred Piquen et Coach Courbis. On le disait, donc on a passé le quart du championnat, 9 journées disputées sur 38. On se régale cette saison. Hein, j'ai fait quelques statistiques. Il y a eu 90 matchs disputés, seulement 3-0 à 0. La moyenne de buts par match est la plus élevée depuis 10 ans, quasiment 3 buts par rencontre. Il y a quelques explications qui sont avancées. L'apport des nouveaux coachs, que ce soit français ou étranger. Baticle fait du super travail à Angers. Les deux promus font du jeu, donc Pascal Gastien à Clermont et puis vous, évidemment, à Troyes. Il y a Peter Boss à Lyon qui également apporte de bonnes choses. Et la jeunesse des effectifs aussi, puisque le nombre de matchs cumulés des joueurs de 20 ans ou moins est en nette augmentation. Avant d'entendre coach et Fred, Laurent Batless, votre point de vue sur le niveau de jeu de la Ligue 1, est-ce que vous êtes surpris de voir un tel niveau en championnat de France cette saison?
Bah, déjà, nous, en montant de Ligue 2, je peux vous dire qu'il y a un énorme écart entre la Ligue 2 et la Ligue 1, ça c'est sûr. Au niveau technique, au niveau tactique, au niveau puissance, voilà, il y a beaucoup d'écart. Malgré tout, c'est vrai que je crois que on essaye de, il y a beaucoup de clubs qui essayent de mettre des choses en place offensivement, on essaye de marquer, on essaye de prendre des risques et de ce qu'on voit, c'est que dans n'importe quel match, ben, tout le monde essaye de gagner des matchs. Je sais que moi, c'est très bateau ce que je vais dire, mais à un certain moment, il y avait des entraîneurs qui nous disaient, ouais, aujourd'hui, il ne faut pas perdre. Moi, aujourd'hui,
c'était Roland Courbis, présente...
ouais. Non, avec Roland, justement, c'était l'inverse qui nous disait qu'il faut y aller pour gagner. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, notamment, moi je parle pour moi, mais on a vraiment envie de prendre du plaisir dans les matchs et notamment essayer d'aller gagner tous nos matchs. Donc après, oui, des fois on prend des risques, c'est pour ça aussi que peut-être on prend des buts, mais on a envie de marquer plus que l'adversaire.
Ouais, tu te régales cette saison devant les matchs de Ligue 1, tu sens justement cet engouement et cet emballement autour des buts qui sont marqués, 3 buts par match en moyenne?
Franchement, je me régale. Je me régale parce que même les matchs de 13h du dimanche où des fois on a envie de dormir, il y a des scores, il y a des équipes qui jouent. Mon petit chouchou aujourd'hui, excuse-moi Lolo, mais c'est Lens aussi.
Ouais, avec deuxième de Ligue 1, Lens, hein, d'ailleurs.
Ouais, avec France S qui fait un énorme boulot hein, depuis la saison dernière. Mais sinon, oui, il y a des superbes équipes. Ça marque des buts. J'ai l'impression vraiment cette année que les entraîneurs demandent à leur équipe d'aller marquer un but de plus que l'adversaire. Mmh. C'est très ouvert. Il y a des buts, tu sais pas le scénario du match. Franchement, moi je me régale sur ce début de saison.
Coach,
ben, si tu veux, je suis d'accord qu'à moitié avec ce que j'entends.
Le contre-pied du coach.
Pourquoi qu'à moitié? Parce que j'ai l'impression, mais si c'est qu'une impression, tant mieux pour le football. Pour moi, je m'en fous complètement, je dis pas tant mieux pour moi. Moi, ce que je regarde, c'est que effectivement il y a des stats, c'est d'ailleurs la période actuelle, l'époque actuelle, on a les stats. Il paraît qu'il n'y a jamais eu autant de buts, une moyenne de je ne sais pas combien, 3 buts par match sur les 9 premières journées. Mmh. Ok, ben c'est magnifique pour le spectateur. D'ailleurs, on le voit dans le Ballon d'Or, qui est pour moi la plus grosse stupidité en ce qui concerne donc l'importance de cette connerie-là, où on compare même pas les attaquants avec les milieux et avec les défenseurs. Donc, excusez-moi d'être l'empêcheur de tourner en rond ou avec mon esprit de contradiction peut-être, mais on s'occupe que des buts marqués, ouais, et on s'occupe pas des buts encaissés. Ça vous dérange de regarder les matchs? Alors moi, je vais continuer à être prétentieux. Le nombre de fois que sur ces dernières années, j'ai pu voir des matchs, quel que soit le niveau, que ce soit en deuxième division ou en Champions League, en étant prétentieux devant ma télé et en disant à celui qui regarde la télé avec moi ou à ceux qui regardent la télé avec moi, eh bien tu vois ce but-là, c'est peut-être prétentieux, mais l'équipe que j'entraînais ne l'aurait pas prise. Donc quand je vois les buts que l'on prend, la distance de marquage, on s'en fout. Quand il y a un tir, on tourne le cul. Quand par exemple il y a un mécanisme à faire, il y a une couverture on s'en fout. Il y a un copain qui ira. Quand je vois que sur corner, on avait à une certaine époque un au premier, un au deuxième. Il y a eu une évolution. Au deuxième, non, on n'en met plus. Le gardien il s'en occupe. Maintenant, on n'en met plus. Au premier non plus, c'est-à-dire que c'est pile ou face.
Mais Roland, c'est le spectacle, Roland. Les gens comme ça, c'est l'évolution, Roland.
Vous mélangez tout.
Ne dis pas que je m'en fous, Roland.
Vous mélangez tout. Que l'on puisse faire du football un spectacle. Si je fais la comparaison avec un sport collectif qui est le football et avec la boxe, tu vas dire qu'est-ce qu'il va encore raconter. je vais t'expliquer que dans la boxe, quand je regardais Mohamed Ali qui s'appelait Cassius Clay, après il a changé de nom, etc. Ouais, mais je me régalais de le voir mettre des droites et des uppercuts et tout, et je me régalais de le voir défendre et esquiver. Défendre dans le football, c'est moins attrayant que attaquer. Ok, empêcher un adversaire de marquer, c'est moins attrayant que de construire une attaque, mais c'est indispensable. Tu ne peux pas être aussi mauvais que ce qu'on a vu. Quand je vois dans les autres championnats, mais je me dis, mais si j'avais été attaquant, même un attaquant moyen, mais je serais allé en Allemagne à pied. Quand tu le vois, c'est défenseur allemand.
Il a raison, Roland. Le secret, c'est que les gardiens, les défenseurs sont nuls.
Je vois les gardiens, machin, etc. Mais je me dis, mais évidemment, oh, que c'est beau, on applaudit. Eh ben, désolé, mais moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'est d'avoir, du côté de Bordeaux,
le record de Gaëtan Huard.
Le record de Gaëtan Huard que nous prenons tous sur le plan collectif, parce qu'il fallait quand même des bons joueurs, une bonne organisation, il fallait de bons principes, et nous avons réussi à passer 14 matchs et quelques prendre un but. Et ben ça me paraît aussi important pour le football.
20h45 sur RMC. À ma droite, la philosophie défensive de l'ancien défenseur central coach Courbis. À ma gauche, la philosophie offensive de Fred Piquet, ancien attaquant de Ligue 1 qui a fait de nombreux clubs.
Et on est complémentaires.
Et au centre, Laurent Batless, l'ancien milieu de terrain, l'ancien milieu offensif.
Et Laurent Batless qui m'a pas mis une passe D.
Ah, en plus.
Pas une.
Mais tu marquais pas.
Ouais, tu lui mettais des passes qui auraient dû être des passes D.
Ouais, c'est ça. Ouais, non, en fait, c'est ça le problème. Moi, je lui faisais la passe, mais il marquait pas, donc il était pas
décisif.
Ouais.
Bon, quel est votre avis là-dessus, Laurent?
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Roland. Je veux dire, c'est pas parce qu'on veut marquer plus que l'adversaire qu'on doit dénigrer l'aspect défensif. Aujourd'hui, tout le travail qui est fait, beaucoup de travail, notamment chez nous, parce que moi je parle de chez nous, on le fait aussi sur l'aspect défensif, sur notre bloc équipe, où on récupère le ballon, comment on récupère le ballon, comment on fait un pressing, comment on fait des couvertures, comment on défend. L'année dernière, on défendait d'une certaine façon avec mes pistons offensifs qui étaient des ailiers. Cette année, je défends complètement différemment. Je crois que ce qui est important, c'est aussi de voir que l'Atlético Madrid l'année dernière a eu l'une des meilleures défenses du championnat en Espagne et a gagné le titre. Et ça, moi, je l'ai regardé aussi. J'ai regardé.
Ah, Laurent qui doit passer.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est important, bien sûr, de bien défendre avant de bien attaquer. Mais on peut pas empêcher non plus. Notre équipe est une équipe de vouloir jouer et de vouloir marquer des buts.
Absolument.
Mais il faut des sécurités à partir du moment où on attaque, tout simplement. Il faut anticiper la perte de balles. Et c'est ce que moi, et par moment, j'arrête pas de le dire, notamment à mes joueurs, que c'est là où on est en danger. Parce que justement,
C'est quand t'attaques que t'es en danger, de toute façon, Lolo.
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention défensivement à ce qu'on met en place.
Le meilleur joueur français qui avait compris ça, c'est Claude Makélélé.
Oui, qui était le roi de l'équilibre de l'équipe, effectivement, notamment au Real Madrid. Laurent, juste en un mot, parce qu'on doit marquer une pause avant de se retrouver. Je rappelle vos adversaires. Évidemment, il y a eu le PSG, il y a eu Monaco et Lyon, mais parmi les autres, je pense à Clermont, Strasbourg, Metz, Montpellier, Angers et même Nantes. Quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné dans le jeu, du coup?
Je pense que là où on a le plus souffert, c'est peut-être l'équipe d'Angers, sur la deuxième mi-temps. À qui on a laissé trop le ballon et on les a laissés jouer.
Je parle pas bien sûr de Lyon.
Oui, on sort les gros, bien sûr.
Monaco,
bien sûr.
Ouais, mais par contre, bah, mais sur les autres équipes, oui, c'est, c'est peut-être l'équipe d'Angers aujourd'hui qui a des, qui a trouvé un équilibre justement eux entre l'aspect défensif et l'aspect offensif, parce qu'ils ont des joueurs de grands talents devant, mais ils ont une, ils ont une équipe derrière qui défend très bien avec des joueurs très expérimentés.
Ok Laurent, vous restez avec nous, on continue le bilan du premier quart du championnat de Ligue 1 avec coach Courbis, avec Fred Piquen, un point sur notre direct puisque malheureusement ce sont les joueurs de Saint-Hélens dans la finale de Super League Rugby à 13 qui ont repris l'avantage contre les Dragons catalans. Kevin Gasset,
ouais, nouveau retournement de situation, 12-10 pour les Anglais grâce à un essai marqué à la 66e par Kevin Nagama, qui est d'ailleurs mauvaise nouvelle pour les Anglais, qui est sorti sur blessure, donc 12-10 pour les Anglais. Le rêve s'éloigne un peu pour les Catalans, mais c'est pas fini. Dans ce match, on a le droit à toutes les situations, et là les Catalans qui ont du mal encore à sortir de leur zone de terrain. Il reste 10 minutes à jouer, 12-10 pour les Anglais.
Ça sent le nul.
Pourquoi pas. 20h49 sur RMC, la suite et la fin de cette finale dans un instant, et puis on continue notre bilan de la Ligue 1 avec Laurent Batless, coach Courbis et Fred Piquen. À tout de suite.
RMC Intégral Foot,
Benoît Boutron
avec Fred Piquen et coach Courbis jusqu'à 21h sur RMC. Notre invité, notre grand témoin de la Ligue 1, c'est Laurent Batless, entraîneur troyen, puisqu'on fait le bilan du championnat après un quart du championnat disputé, 9 journées sur 38. Je précise que Saint-Hélène mène toujours 12-10 dans la finale de rugby à 13, la Super League contre le Dragon catalan, après 72 minutes de jeu. Évidemment, c'est à Old Trafford que ça se passe. Kevin Gasser nous appelle dès qu'il se passe quelque chose. Laurent Batless, on voulait parler du reste, effectivement, du bilan. Il faut absolument qu'on parle de l'arbitrage, hein, puisque c'est ce qui a marqué forcément ces 9 premières journées. Le niveau de l'arbitrage a été souvent remis en question depuis le début de saison. On pense notamment à cette action qui avait fait beaucoup une grande polémique entre le PSG et Lyon, ce penalty accordé à Neymar pour la faute de Malo Gusta après arbitrage vidéo.
Voilà, non faute.
Lors de ce même week-end, il y avait eu 3 plaintes, une de Pascal Gastien pour une faute sur Jason Berthomier. Et une pour vous également, dans un match là aussi compliqué. Souvenez-vous, face 3 face à Angers, un but qui vous avait été refusé parce que on avait estimé que un de vos joueurs avait gêné la visibilité de Paul Bernardoni. Ça avait causé beaucoup d'énervement chez vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement de l'arbitrage vidéo, puisque vous le découvrez, vous, cette saison. Vous étiez en Ligue 2 la saison dernière, elle n'est pas présent en Ligue 2. Vous le découvrez cette saison en Ligue 1 avec 3, Laurent Batless.
Oui, ben en fait, je vais pas m'en plaindre, puisque de toute façon l'année dernière on l'avait pas, et il y avait malgré tout, on avait eu une ou deux erreurs d'arbitrage, mais qu'on n'avait pas pu de toute façon voir, parce que ça fait partie du football. Et cette année, oui, il y a eu ce fait de jeu contre Angers où plus ou moins on a eu une explication. Donc après maintenant. Moi, j'ai une interprétation au niveau du football. Ils ont une interprétation au niveau de la loi du jeu. Et voilà, en fait, après, comme j'avais dit en conférence de presse, à partir du moment où on arrête l'image sur le fait que mon joueur est devant Bernardoni, bien sûr, on peut siffler que leur jeu. Et là, en fait, c'est la loi. C'est la loi du jeu qui fait que quand un joueur gêne comme c'est le gardien, et notamment comme ça, il y a hors-jeu. Maintenant, moi, c'était l'interprétation avant du corner, et du fait que Paul Bernardoni n'avait rien à faire dans les pieds de mon joueur et qu'il avait raté sa sortie. Maintenant, l'arbitre, en fait, il n'est pas là pour regarder et interpréter plus ou moins l'aspect football. Il est là pour interpréter l'aspect loi du jeu. Sur la loi du jeu, ils ont estimé qu'il y avait hors-jeu.
Mais quel bilan vous faites après 9 journées justement de l'utilisation de l'arbitrage vidéo? Je le disais, vous qui n'aviez pas accès, enfin en tout cas votre club n'était pas arbitré par la vidéo l'an dernier en Ligue 2. Avec le recul, vous pensez que c'est une bonne chose? Vous pensez que c'est bien utilisé, ou vous pensez qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment en Ligue 1?
Je pense que c'est, enfin pour moi, en 9 matchs, on n'a pas eu grand chose à dire par rapport à ça. Après, est-ce que c'est bien utilisé ou pas? Je pense que quand mon joueur, et j'en ai parlé avec l'arbitre, quand mon joueur Johan Tousgard se fait tacler par derrière sur le match d'Angers, qui sort sur civière et que la VAR ne revient pas à ça, on peut toujours estimer que c'est pas bien fait. Voilà. Maintenant, après, il y a des fois où quand la VAR intervient à bon escient, ben on peut estimer que c'est bien fait. C'est difficile à répondre parce que de toute façon. On peut jamais contenter tout le monde, donc voilà. je sais vraiment pas quoi en penser.
Alors,
elle est là, donc
Laurent,
à partir du moment où il s'en sert.
Ce qu'on peut dire avec Coach et Fred, les infos RMC Sport, c'est qu'il y a des groupes de travail qui sont en train de se monter à la Ligue. Hein. Vous pouvez retrouver ces papiers sur rmcsport.fr. Il y a un groupe de travail nommé Arbitrage qui va être dirigé par Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, qui a pour but de clarifier les relations entre la LFP et la Fédé de foot, parce que on rappelle que les arbitres sont gérés par la Fédé, même s'ils sont payés par la Ligue. Ce groupe qui sera chargé d'obtenir auprès de l'organisme qui gère les arbitres, l'organisme mondial, l'autorisation de diffusion du son des arbitres en direct et de la gestion du VAR. Roland, est-ce que ça pourrait changer quelque chose, entendre les explications de l'arbitre pour expliquer et justifier une décision?
Ça ne peut être qu'une amélioration. Parce qu'à ce moment-là, on comprendrait mieux certaines choses. Moi, ce qui me dérange, c'est pas que l'on puisse faire une erreur. Ce qui me dérange, c'est que dans certaines fois, l'arbitre ne va pas voir ce qui s'est passé.
C'est ça.
Donc, alors après, si l'arbitre va voir ce qui s'est passé et qu'il se trompe, parce que je regarde certains pénaltys, tu pourras aller le voir pendant une heure, ouais. Et tu pourras le faire revoir par 50 personnes, et il y en aura la moitié qui l'aurait sifflé et l'autre moitié qui l'aurait pas sifflé.
Tout à fait.
Donc, mais au moins, déplace-toi. Essaye de regarder ce qui s'est passé, et après tu prends ta décision.
Ça, généralement,
mais le nombre de fois que j'ai vu que l'arbitre ne s'est même pas déplacé pour aller voir telle ou telle action, c'est ça pour moi, par rapport à celui qui subit et que ça va être défavorable comme décision. Mais t'es encore deux fois plus les boules, puisque moi j'ai toujours pensé, et je le pense toujours, que c'est l'arbitre du centre qui doit prendre les décisions. La VAR, j'avais compris, mais c'est pas seulement que j'avais compris, que j'avais mal compris, j'insiste toujours, puisque la VAR doit être un copain de l'arbitre, ouais. ou une copine pour l'aider dans ses décisions, pas prendre les décisions à sa place.
Exactement.
Quand je vois cet arbitre mettre son index et que du camion, on lui dit non, mais déplace-toi, va voir comment ça. Celui qui a malheureusement qui est dans le mauvais côté de la décision, il aura moins les boules.
Exactement. En tout cas, c'est passé très vite. On remercie Laurent Batless qui a été avec nous pendant 40 minutes.
Salut Laurent, voilà. Et encore bravo pour tout ce que tu fais.
Bon week-end en famille, bonne saison avec 3. Hein. Vous revenez quand vous voulez sur l'antenne d'RMC. On vous accueille avec plaisir.
Merci. Avec plaisir.
Et bien,
je ne t'ai pas vu sur la liste du variété jeudi.
Ah, bah, il a peut-être autre chose à faire.
Non, mais Jacques, il te dira pourquoi.
Voilà. Okay. Merci Laurent Batless. À bientôt sur RMC.
Bisous Lolo.
Merci à Fred, merci à Coach. Un petit point sur le direct. Évidemment, cette finale de rugby à 13, la Super League entre les Dragons catalans et Saint-Hélène, Kevin Gasser.
Oui, il reste presque moins de 2 minutes dans la partie à Old Trafford, et 12 à 10 pour les Anglais, les Dragons catalans qui n'y arrivent toujours pas. Là, ça se bat au milieu de terrain. Il reste que 2 petites minutes pour les Dragons catalans pour poursuivre peut-être le rêve et remporter leur première Super League de leur histoire. Mais pour l'instant, c'est les Anglais qui tiennent et qui tiennent de plus en plus haut le ballon sur le terrain. 12-10, il reste moins de 2 minutes à jouer.
Merci Kevin, la suite et la fin de ce match dans l'intégral sport autour de François Pinet, puisqu'on rappelle qu'il y a une affiche de top 14 ce soir entre Toulon et Brive, à suivre avec François jusqu'à 23h. Bonne soirée à tous, ciao.
RMC Intégral Sport.